J'aimerais sans plus tarder vous faire découvrir le chapitre 17 du livre. Chapitre 17, le titre du chapitre c'est « Revenu de nulle part », ça parle de cette jeune demoiselle.
Eh bien, merci. En fait, ce matin je vais vous témoigner de mon passé, mais surtout de ce que je vis actuellement. Il y a plus de détails sur mon passé dans le livre, mais j'ai un passé très compliqué en fait. Dès mon plus jeune âge, j'ai pas eu beaucoup de limites dans ma vie. Du coup, j'ai pu vraiment faire tout ce que je voulais. Beaucoup la fête, j'ai beaucoup bu d'alcool, j'ai fumé du cannabis très jeune, trop jeune. J'avais quelque part en moi un esprit de rébellion. Je voulais obéir à personne, j'obéissais à personne, je faisais ce que je voulais. Et ça m'a amené très bas. Ça m'a amené à l'automutilation. Ce sentiment de vouloir faire ce que je voulais m'a fait que dans ma vie, je me suis coupée des centaines de fois. J'ai fait, à cause de ça, beaucoup de psychiatrie. J'ai fait environ 35 séjours à Belley. Là-bas, j'ai reçu des diagnostics lourds comme bipolaire et borderline. Deux choses qui me condamnaient à prendre des médicaments toute ma vie et à jamais sortir de ça, en fait. D'avoir toujours au-dessus de ma tête, ces choses qui faisaient que dans la vie, je m'en sortirais pas, qui m'ont permis aussi d'avoir une rente haïe à cause de ces diagnostics. Et il y a environ 2 ans, à un concert de Philippe, j'ai rencontré Dieu. Vraiment, j'ai rencontré le Seigneur. Philippe et Jocelyne se sont beaucoup investis pour moi, pour que vraiment je puisse vraiment trouver ma place en Dieu. Très vite, j'ai compris les choses. Très vite, je voulais vraiment faire la volonté de Dieu. Et les bénédictions, elles sont allées, mais c'était fou au début. J'ai pu rapidement prendre un appartement, alors que ça faisait 7 ans et demi que je vivais dans un foyer. J'ai pu arrêter mes médicaments, ça c'était presque facile, presque trop facile, avec l'aide de mon psychiatre, je précise, en respectant, si vous voulez, la diminution. J'ai fait partie de la tournée à Philippe, j'ai fait 25 concerts avec lui, c'était génial. Récemment, j'ai pu me payer une voiture alors que j'avais plus rien dans la vie. Ça, j'ai dû avoir un peu de patience, mais c'était aussi pas compliqué. Et actuellement, pour moi, c'est difficile. Il y a quelques temps, j'ai fait la demande à l'assurance invalidité de me financer des études et ils étaient un peu réticents. Ils ont dit qu'ils voulaient voir si je tenais quelque chose sur le long terme. Et actuellement, je suis en réadaptation professionnelle à Bienne et ce que je fais, ça me plaît pas du tout. Pour moi, c'est très difficile. C'est pas difficile ce que je dois faire, mais ce qui est difficile pour moi, c'est de respecter ce qu'on me demande, en fait. Et c'est là que je vois vraiment que je suis dans le plan de Dieu à nouveau. C'est parce que la priorité de Dieu, finalement, et je le vois maintenant, c'est que il voulait que mon esprit rebelle, cette rébellion qui était, malgré mon cœur pour Dieu toujours là, Dieu, il voulait que je progresse là en premier. Malgré que je veuille, moi j'ai envie de servir à quelque chose. Comme je vous dis, j'ai envie de quitter l'AI. Je voulais faire des choses qui soient utiles. Et là, je me retrouve dans un endroit où je dois faire des factures qui servent à rien parce qu'elles sont jamais envoyées. C'est juste pour voir si je dois, si j'y arrive. Alors pour moi, c'est pas difficile ça de le faire. Mais ce qui est difficile, c'est de faire quelque chose sans qu'il y ait de sens en fait, et que je doive respecter ça. Et c'est là que je vois que c'est beau la vie avec Dieu, parce que quand on est aligné à lui, eh ben, il répond aux prières. Enfin, il répond à nos attentes. Et ce que je peux dire, c'est vraiment que je vois que Dieu veut réécrire mon histoire. Il veut que je réécrive l'histoire. Et les études que je voudrais faire, c'est la HET, la Haute École Théologique. Alors, ils ont pas encore forcément accepté. Ils veulent voir comment ça se passe à Bienne, là où je suis. Et puis, quand j'aurai cette bénédiction, si je l'ai, ce sera une bénédiction tellement plus grande que ce que j'ai eu jusqu'à ici, parce que j'aurais fait ma part, en fait. J'aurais mérité quelque part ça. J'aurais obtenu ce que Dieu voulait que j'obtienne. Merci.
Merci, Léa. Tiens, je te laisse tes notes. Oui, c'est vraiment beau. On a pu accompagner Léa depuis plus de 2 ans maintenant et voir son progrès, voir ses progrès, voir comment Dieu travaille les cœurs, la psychologie de Dieu. Et avec Dieu, si tu rates une étape, ben tu restes là où tu es, où tu n'as pas franchi l'obstacle. Tu peux pas contourner l'obstacle. Et ce qu'elle vit maintenant, à 35 ans cette année, ben, c'est ce qu'elle n'a pas réussi à faire quand elle avait à partir de 12, 13, 14 ans. On ne lui a pas mis les barrières qui auraient dû lui être mises. Et puis là, ben, elle réécrit l'histoire. Mais ce qui est beau, c'est que tout ça, toutes ces années, plus de 4 ans, elle a passé en clinique psychiatrique, Boisbout. Plus de 4 ans, des mois durant en contention, c'est-à-dire attachée sur un lit, parce que sinon elle se faisait du mal. Et tout ça, c'est en train de servir à quelque chose. Dieu a un plan pour elle extraordinaire. Je lui disais, on était amené à aller voir des gens qui étaient en psychiatrie. Je lui disais, mais Léa, tu as fait la meilleure université de psychiatrie que aucun psychiatre connu n'a jamais faite. Parce que ce que tu as appris dans tes temps là-bas, tu l'apprends pas dans une université. Et Dieu a des plans extraordinaires. Et c'est beau de voir quand elle est arrivée chez nous, elle était rebelle. Quand on lui parlait d'obéissance et de soumission, tu la voyais ce, je me disais, mais ces mots-là, je les supporte pas. C'était viscéral. Et puis, peu à peu, avec beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, Dieu nous a vraiment conduits à pouvoir vivre ensemble, cette transformation. Jésus est notre sauveur. Qui connaît Jésus comme son sauveur, son libérateur? Et maintenant, si je donnais le micro à l'un ou l'autre d'entre vous, je pourrais vous mettre très mal à l'aise en vous disant, Jésus t'a délivré de quoi? T'as libéré de quoi? Ténèbres? Quelqu'un a dit la cigarette, c'est bientôt pour toi, Léa? Tout n'est pas encore réglé, il y a deux, trois boulons à resserrer. Quand on, dans une église évangélique, on dit, Jésus m'a délivré du péché. Amen! Ouais. Amen. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous, vous êtes au travail demain à la pause, et puis vous dites, j'étais libéré du péché. Ouais. Ben, il y a peut-être un missile de Poutine qui est tombé pas très loin. Voilà. En tout cas, ça va être malaisant. Mais si vous dites, écoutez-moi, j'ai vécu une libération, j'ai été libéré de mes prisons intérieures, de mes chaînes, de toute forme de captivité, de mes blessures intérieures, de mes souffrances, de tous ces mensonges qui polluaient mes pensées, j'étais libéré de la mauvaise image de moi-même, vous savez pas, j'avais une mauvaise image de moi-même, j'étais libéré de la honte. De l'accusation, de la culpabilité, de mes peurs. Eh les gars, j'étais libéré, j'ai plus peur. Vous avez peur, vous? Ah ben écoute, on parle de Troisième Guerre mondiale, et puis c'est peu... Ouais, ben, c'est vrai, mais j'ai pas peur. J'étais libéré de mes angoisses, de mes inquiétudes, du négativisme. Vous savez quoi? J'étais libéré de tout ce qui est plus fort que moi. Ça, peut-être que Les copains, ils disent, bon, c'est quoi que t'as fumé, mais après avoir fait souffler quelque part, ou bien avoir fait un test, ils verront que vous avez pas fumé. Donc là, ils vont être interpellés. L'apôtre Pierre disait, 2 Pierre 2,19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et mes amis, Jésus est venu en tant que sauveur, comme libérateur pour nous amener à la liberté. La liberté. Et trop souvent, on a prêché l'évangile du ciel. Jésus est venu nous sauver pour aller au ciel. Alléluia. Un jour, dans un certain nombre d'années, on sera avec lui au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me réjouis tellement. Vous savez pourquoi je me réjouis tellement? Parce que j'ai connu quelques fragments du ciel sur la terre. J'ai connu quelques fragments du ciel sur la terre. Je me souviens où tu es assis, mon frère, là. Où tu es assis, là. Juste là. Là, j'étais assis là. Sur cette chaise. C'était peut-être pas la même chaise, mais c'était au même endroit. T'es assis là, il y a 35 ans. Dans un culte, il y a 35 ans. On était à moitié membre de l'église du réveil parce qu'on habitait Templalement 79. Et puis on était à l'église de Porrentruy. Donc on était souvent ici. Et j'étais assis là où tu es. Et un jour, au culte, je me sentais vraiment, j'avais perdu le feu. J'ai fait une très belle conversion. J'étais bouillant et tout ça. Et au bout de 2 ans comme ça, trop de choses allaient bien dans ma vie, professionnellement, personnellement, familialement. Trop de choses allaient bien. Et je m'étais refroidi. Dans un moment, j'étais assis là et vraiment, je me disais, mais aux yeux de Dieu, je suis vraiment pas aimable. Je suis vraiment pas aimable. Et à ce moment-là, j'ai ressenti ça très, très, très rarement. Je suis pas quelqu'un qui sent. Il y a des gens, je sens l'esprit, je sens l'onction. Moi, je sens des fois un peu sous les bras, mais sinon, je sens très rarement. Mais là, ce jour-là, au culte-là, j'ai vécu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui me disait, je suis encore ému maintenant. C'est je t'aime. C'est pas tout ce que tu peux faire pour moi n'ajoute rien à cette valeur. Tout ce que tu peux faire de mal ou ne pas faire de bien ne retranche rien à cette valeur. Je t'aime. Et j'étais pris, j'ai pleuré comme un gamin. Waouh! Donc je connais ces fragments de ciel. Je les ai vécus. Mais l'évangile, c'est pas ça. On n'est pas sauvé pour aller au ciel. L'évangile, c'est amener le ciel sur la terre et vivre cette liberté. Jésus, quand il commence son message, son ministère, vous avez ça dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18, il cite Ésaïe, vous connaissez ce passage, il cite Ésaïe 61, et il dit aussi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Il est question de captifs. Il est question d'opprimés. Et dans Jean 8, verset 31-32, vous avez cette parole que vous devriez, qu'on devrait connaître par cœur. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez. D'abord, vous êtes vraiment mes disciples. Alors là, vous avez deux options. Si vous demeurez pas dans ma parole. Et dans un autre passage, Jésus dit, si vous demeurez en moi, dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous. Que mes paroles demeurent en vous. Donc, si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous avez deux options. Soit vous êtes pas vraiment mes disciples, soit vous êtes vraiment pas mes disciples. Si vous demeurez, vous êtes vraiment. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je prêchais dimanche passé à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. J'avais 200-300 personnes devant moi et quand j'ai commencé le culte, mon intervention, j'ai dit, qui connaît 50 versets de la parole de Dieu par cœur? Qui connaît 20 versets par cœur? Non, pas 20 versets, 20 promesses. 20 promesses de la parole de Dieu. Des promesses. Il y en a juste quelqu'un, on a compté 32 500. J'ai pas vérifié. Mais qui en connaît 20 par cœur? 10 par cœur? 5 par cœur? Une par cœur? Une main qui se lève? J'ai dit, on a un gros, 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 gros problème. Comment tu veux faire alors que tu es tsunamisé quotidiennement par tes pensées? Par tes pensées d'inquiétude, d'accusation, de convoitise, de tout ce que tu veux. Je pense que vous n'êtes pas très différent de moi. Moi, je suis quelqu'un, des scientifiques ont dit on a à peu près 60 000 pensées par jour qui viennent. Moi, je ne les ai pas comptées non plus, mais je pense qu'il doit bien y avoir le compte. Quand mon épouse me dit à quoi tu penses, j'ai dit Attends, précise ta question. À quoi je pensais, au début de ta question, à la fin de ta question ou au milieu de ta question? Parce que j'ai l'impression que c'est des fois dans mon d'avoir une télécommande avec quelqu'un qui presse zapping, 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 et puis ça tourne comme ça. Mais moi, je suis inondé de pensées négatives. Si je fais pas attention, peur, inquiétude, soucis, tout ce que tu veux, comment tu fais pour contrer ça? On donne aux personnes comme Léa, on leur donne des calmants pour les endormir. Elle a eu tous les effets secondaires, Léa, ses parents qui nous ont dit, des filets de bave qui tombent, ou elle était comme ça, ou elle a tous les effets. On essaie d'endormir les pensées des gens. Ou parfois, quand tu as des pensées, quand tu as subi ce que Lise a subi, on est persécuté par ça. Tu peux rien faire. Ces pensées, elles viennent. Tu es persécuté. Tu peux pas arrêter ce flot, mais tu peux proclamer la parole de Dieu. Et c'est ça ce que Lise a découvert dans mon bouquin. Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il y a une liberté à trouver. La liberté, j'aime définir cela comme ça. Vous savez, quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte, ils ont été libérés de l'esclavage. Comme ça, enfin, ça a mis quand même, il y a eu quelques étapes. Mais au moment où Pharaon a capitulé, ils sont sortis d'Égypte comme ça. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec et ils avaient un pays promis qui était devant eux. Jésus, Dieu leur avait dit, j'ai un pays promis où coule le lait et le miel. Il est à vous, vous avez à le conquérir, il est à vous. Ils sont sortis de l'esclavage. Marcher dans le désert, je sais pas combien il y avait de jours, 7, 8 jours, je sais pas exactement, et ils avaient un pays à conquérir. Et devant le pays à conquérir, ils ont foiré. Parce qu'ils ont regardé les circonstances, ils ont écouté leurs sentiments. Quand vous voyez les espions qui rentrent d'avoir été observer le pays et qui disent, il y a des géants, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Donc, il devait voir, si tu prends la taille d'une sauterelle, il devait voir les géants comme à peu près, je sais pas, 35, 40 mètres de haut. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié la parole de Dieu. Le pays était à eux. Ils avaient juste à le conquérir. Je crois que le pays que nous avons à conquérir sont les promesses de la parole de Dieu. C'est cette liberté, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et trop de gens parmi les croyants, dans les bonnes églises évangéliques comme celle-ci où on vient de vivre un très bon temps de louange, c'était puissant ce matin, trop de gens à l'image du peuple hébreu passer leur vie à tourner dans le désert et ils vont pas conquérir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous demeurez dans ma parole, si mes paroles demeurent en vous, c'est la parole de Dieu qui nous donne de pouvoir conquérir cette liberté. Tout comme pour le peuple hébreu, s'ils avaient simplement, s'ils étaient restés focalisés, voilà, Dieu a dit. On va simplement faire ce que Dieu a dit. Et vous avez un autre exemple. Lorsque, dans Genèse 3, le serpent s'approche d'Adam et Ève, Ève en particulier, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que fait le serpent? Une seule question. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il remet en cause la parole de Dieu. Et quelle est la faute d'Ève qui va précipiter la chute? J'écoute, je considère, j'argumente, je réfléchis, j'ai déjà perdu. À combien de reprises on peut réfléchir, on peut argumenter avec nos pensées? Si mes pensées contredisent la parole de Dieu, si les circonstances contredisent la parole de Dieu, je choisis de m'appuyer sur la parole de Dieu. Il y a 2 ans de cela, juste 2 ans, comme jeudi qui vient, j'ai eu un accident. J'ai pris une charge de plus ou moins, mais plutôt plus, une tonne sur le pied gauche. Bam, une tonne. J'avais des bonnes chaussures de bûcheron, mais mon pied était bien écrasé. Et par la grâce de Dieu, c'était juste le début du confinement, tous les concerts étaient annulés, j'ai une franchise de 2500 francs sur ma caisse maladie, et je me suis dit, non, ça va te coûter 2500 balles, va pas à l'hôpital. Je ne suis pas allé à l'hôpital, je ne peux pas vous raconter tout ça en détail, j'avais le pied écrasé, Dieu m'a guéri. Et Dieu est allé jusqu'à contredire la parole que je viens de lire tout à l'heure. Dieu a contredit sa parole. Parce que dans le psaume 91, je vous ai dit tout à l'heure, il est dit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors Dieu a contredit cette parole-là. Je vais vous expliquer pourquoi quand même. C'est quand même intéressant. Parce que je pense que je vais avoir le pied cassé, j'en sais rien quoi. Mais en tout cas, à la suite de ça, j'ai eu un problème de nerf. Et ce problème de nerf, ça commençait de se péjorer vraiment sur quelques mois comme ça. Et puis, un jour d'été, je me suis trouvé dans la forêt, il faisait sombre, c'était la nuit. Et j'étais en claquette et je n'ai pas vu une grosse pierre qui était au milieu du chemin. Je suis arrivé, bam, et j'ai shooté la pierre qui n'a pas bougé beaucoup. Et j'ai yodelé un petit moment. Vous savez quoi? Ça m'a remis le nerf en place. J'ai proclamé Ésaïe 53 pendant à peu près une demi-heure parce que j'avais mal. Le lendemain, j'étais un peu bleu et mon problème de nerf a été opéré. J'ai vécu une opération. Voilà. Dieu a contredit sa parole. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, c'était plutôt, ils te voileront les yeux afin que ton bon pied, parce qu'il fallait que ça soit le bon en plus, heurte contre cette pierre. Non, mais Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Mais si je peux vivre des choses comme ça, quand j'ai eu mon pied écrasé, j'ai proclamé Ésaïe 53 des dizaines, des centaines de fois. Ce sont mes souffrances qu'il a portées, le châtiment qui me donne la paix. Va chercher les béquilles quand même, Joe. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Oh, je suis guéri, je suis guéri. J'en ai pas l'air, mais je suis guéri. J'ai proclamé. C'est la parole de Dieu. La parole, je m'accrochais à la parole de Dieu, s'accrocher à la parole de Dieu. La foi, c'est aller à l'encontre des circonstances et des sentiments. C'est tellement important. J'ai expérimenté de tellement de manières différentes. Et dans le livre Libéré, j'explique comment on a pu partager ça, comment on a pu amener des gens qui étaient vraiment prisonniers. Vous savez, Jésus est venu nous libérer de nos prisons, de nos chaînes, de notre captivité, de notre enfermement. La langue française est pas mal faite. Quand on est prisonnier, on est dans l'enfermement. L'enfer me ment. Du verbe mentir. L'enfer me ment. Quand je suis en prison, l'enfer me ment. Combien de fois, alors que nous sommes chrétiens, nous proclamons la vérité. Je connais Jésus. Jésus, tu es la vérité, mais je vis dans le mensonge. Je vis dans le mensonge. Je suis noyé, tsunamisé par le mensonge. Non pas parce que je suis un menteur, mais parce que mes pensées me mentent. Mes sentiments sont le sentiment. Il n'y a pas que l'enfer qui ment, il y a aussi le senti qui ment. C'est tellement important de comprendre ça. Vous savez, il y a trois sortes de lois. Les lois naturelles, la loi de la gravité, par exemple, les lois humaines, les lois spirituelles. Et quand vous transgresser ces lois, vous avez une conséquence. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je me lance depuis Espacité, mais même Jésus l'a pas fait. Hein? Satan l'a tenté. Donc, On sait que si on transgresse certaines lois naturelles, on aura des problèmes. Si on transgresse certaines lois humaines, on aura aussi des problèmes. Je vais être exposé à des conséquences, et la conséquence sous nos latitudes la plus forte, c'est la privation de liberté. Si je fais des bêtises, je vais être privé de liberté. Spirituellement, c'est pareil. C'est exactement pareil. Si tu transgresses une loi spirituelle, tu vas perdre ta liberté. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient de cela? Je raconte, et c'est le témoignage qui a touché Élise, une femme qui vient nous voir un jour, elle a 66 ans, elle est au bout de sa vie, elle a été mariée pendant 40 ans à un pervers narcissique, son prince charmant est devenu son bourreau. Elle s'est mariée à 18 ans avec le prince charmant, belle gueule, beau parleur, et il est devenu son bourreau, et elle en a bavé pendant 40 ans. Et puis... elle est chrétienne, on lui parle du pardon, elle dit « j'ai pardonné » et je lui dis « mais et la colère ?» Là, je touche un point sensible. Elle me dit comme Lise « mais j'ai rêvé, j'ai fantasmé, j'ai voulu le... » J'étais prête à payer, si elle avait trouvé un tueur à gages, était prête à payer pour dégommer son mari. Elle l'a pas fait. Et là... tu trouves en face d'une femme, quand elle nous a raconté son histoire, son parcours, moi j'avais les larmes aux yeux. Je me disais, mais comment c'est possible qu'on puisse faire ça à une femme qui a toujours été fidèle, qui a toujours aimé son mari. Mais à un moment, je lui ai dit, ma sœur, tu es une serial killer spirituelle. Et elle me regarde et me dit... Mais écoute, regarde ce que la parole de Dieu dit. Celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier. Donc ton mari, le canard est toujours vivant, mais tu l'as tué des milliers de fois. Et elle était atterrée. Et t'as l'impression que t'es un blessé en face de toi. Et ce que tu lui dis, tu lui tapes encore dessus. Alors on a vraiment pris tous les gants possibles pour lui dire, on comprend ta souffrance. Oui, ta colère est mille fois légitime. Oui, tu as raison. Et si moi je l'avais eu en face, j'aurais dégommé aussi. Oui, tu as raison. Oui, c'est légitime. Mais il y a des lois. Et si tu transgresses ces lois, tu auras des problèmes. Non pas que Dieu va te punir, et ça c'est une révélation, non pas que Dieu va te punir, mais la transgression de la loi va laisser à l'ennemi le droit de venir à tes souhaits, ma sœur, le droit de venir te torturer. Et on lui a fait lire Éphésiens 4, 26. Si je vous dis Éphésiens 4, 26, ça vous dit peut-être rien. Mais si je vous dis le verset, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Beaucoup de gens le savent. Le verset, la phrase qui suit, très rares sont ceux qui la connaissent. La phrase qui suit, le verset 27, Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Ça va ensemble. Si tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, aussi légitime qu'elle soit, tu donnes l'accès au diable. Tu ouvres ta porte au diable. Tu ouvres la porte. Tu déroules le tapis rouge. Tu mets la pancarte. Welcome, Mr. Satan. Welcome home. Et il arrive et il s'installe. Et dit, ça, c'est chez moi. Et tes problèmes commencent. C'est tellement important de savoir cela. Vous savez, Jésus est au centre de l'histoire de l'humanité. Ça, on est obligé, qu'on soit croyant ou pas, il y a l'avant Jésus-Christ, l'après Jésus-Christ. Jésus est au centre. La croix est au centre de l'évangile, du message de Christ. Qu'est-ce qu'il y a au centre de la croix? Tout au centre. Le point où l'axe vertical est lié à l'axe horizontal, tout au centre. Le pardon. Le pardon, parce que ce centre-là, c'est l'axe vertical, c'est le pardon de Dieu pour les hommes. l'axe horizontal, c'est le pardon des hommes envers les hommes. Et le point où ils se rencontrent, c'est le centre de tout, le cœur de tout, c'est le pardon. Et si je ne pardonne pas, et Jésus l'a dit dans Matthieu 18, 21, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. C'est... La croix tient ensemble si les deux bras sont attachés ensemble. Et le cœur, c'est le pardon. Et dans Matthieu 18, nous avons cette illustration du maître qui remet une dette énormissime à un de ses serviteurs. Et puis, le serviteur, il est tout content. Et puis, il trouve un de ses potes qui lui doit 3 francs 6 sous. Et puis, il le met en prison parce qu'il n'a pas réussi à lui rembourser. Et le maître, quand il voit ça, il est outré, il est fâché. Et il se met dans une grande colère. Et c'est pour nous montrer que l'importance du pardon, ce que je développe dans le livre aussi, c'est que beaucoup de gens, normalement dans les milieux chrétiens, on comprend ce que c'est que le pardon. Parfois, les gens ne savent pas comment pardonner. Je raconte cet exemple d'une femme, une chrétienne, qui a 46 ans quand nous la rencontrons. Elle a été abusée par son père dès l'âge de ses 6 ans jusqu'à ses 12 ans. Son papa, ancien d'église, prêchait l'évangile de temps en temps le dimanche. Bien cher frère, mes bien chers frères, il est écrit dans la parole de Dieu et tout ça. Et la semaine, il abusait sexuellement de sa gamine durant des années. Ça existe. Pas que dans les couvents catholiques. Ça existe aussi malheureusement dans nos milieux. Cette femme, 40 ans après, nous disait, je sais pas comment pardonner. J'ai voulu en parler à mon père un jour. Il est mort aujourd'hui. J'ai voulu en parler à mon père. J'ai dit, papa, tu te souviens, il y a eu des choses. Écoute, ta maman ne pouvait pas s'occuper de ton éducation sexuelle. C'est moi qui ai dû pallier cette carence. Réglé, on n'en parle plus. Je ne sais pas comment. Et on lui a expliqué simplement comment pardonner, comment le faire. Très simple. Comment pardonner l'impardonnable quand on s'est trouvé en face de victimes de viol de guerre. Viol de guerre. La jeune femme te raconte, au Congo, des miliciens sont arrivés. Mon père a été tué. On a demandé à mon frère de violer ma mère. Quand on parle de violer la maman, c'était pas avec son sexe, c'était avec un bâton ou un canon de fusil ou voilà. Il y a des enfants. Non. Il y a des enfants? Ah ouais, il y a des enfants. Ouais, pardon, excusez. Je m'arrête là pour les détails. Cette femme, 20 ans après, nous dit, et on confirmait cela, ce que tu as vécu, c'est impardonnable, humainement parlant. Humainement, même si tu veux, si tu voulais le faire avec toute ta bonne volonté du monde, tu ne peux pas, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Et Dieu nous demande de pardonner, comment je fais? Comment je fais? Il y a une petite chose à faire, une décision à prendre, à valider devant témoin. Si vous confessez, si deux ou trois, si vous confessez cela, je l'explique, je vois le temps qui passe, on est à la cité de la montre quand même. Je l'explique là-dedans, je ne vais pas aller plus loin, mais il y a des choses qui sont impardonnables et pourtant Dieu nous demande de pardonner. Il y a des gens, et ça, ils sont dans les églises, ils sont légion, enfin, ils sont pas légion, mais on en trouve beaucoup, des gens qui peuvent pardonner des choses qu'on leur a faites, mais qui ne peuvent pas se pardonner leurs propres erreurs. J'ai entendu des gens qui disent, mais ça, je pourrais jamais me pardonner. À cause de moi, mon enfant est mort. J'ai tué mon propre enfant dans les franches montagnes parce que j'ai reculé avec le tracteur, j'ai pas vu, j'ai tué mon propre enfant. Je peux pas me pardonner. Et pourtant Dieu nous le commande. Comment je fais? Tu le décides. Tu le décides. Et au moment où tu as fait ce que tu pouvais faire humainement, tu as pris cette décision, alors après, les ministères ou le ministère qui a à côté de toi, il va prier pour libérer la puissance surnaturelle du pardon qui va te permettre de vivre réellement le pardon. Mais il faut qu'il y ait ce déclencheur. S'il n'y a pas ce déclencheur, tu verras rien. Vous comprenez? C'est tellement, tellement important. On a encore, je vais essayer de faire le plus court, mais ça c'est vraiment tellement important. La différence entre l'accusation et la conviction de péché. J'aime beaucoup parler du Seigneur, j'aime moins parler de Satan, et pourtant on est en guerre. Et dans une guerre, si tu veux gagner la guerre, c'est intéressant de connaître l'ennemi. Satan est le père du mensonge. Le père du mensonge, champion de toute catégorie sur le thème du mensonge, mais il est également l'accusateur. Il est celui qui va te conduire dans le péché, te pousser au péché, et dès que tu seras tombé, le doigt arrive, le doigt accusateur. Et on parle de l'index accusateur. Et cette accusation peut être tournée vers les autres, elle peut être tournée vers toi. Et combien sont dans l'accusation, dans la honte? 100%, écoutez bien, 100% des victimes. On est avec Jocelyne dans un ministère d'accompagnement de victimes de violences sexuelles. J'ai trouvé récemment, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je suis parfois embarrassé, je dis, voilà, je suis musicien, chanteur, écrivain, réalisateur. Maintenant, quand on me demande suivant à qui, j'ai fait le coup la semaine passée en Afrique, je dis, je suis restaurateur d'art. Restaurateur d'art. Ah bon, vous êtes restaurateur d'art, mais dans quel domaine? Dans ce que vous pouvez trouver de plus précieux. Ah, tableau Van Gogh, Picasso, peut-être beaucoup plus précieux que cela. Oh. Mais vous restaurez quoi? Le chef-d'œuvre de Dieu. Oh. Et c'est quoi? La femme. Les femmes me regardent avec une tête, là, ça devrait vous faire plaisir ce que je vous dis là. La femme est le chef-d'œuvre, l'homme aussi un peu quand même. Parfois, je me dis, mais comment, ça c'est le miracle de Dieu. Comment une créature comme ça, il a pu sortir une femme? Ça m'épate toujours. Comment d'un homme si imparfait, il a pu sortir des femmes aussi parfaites? Les femmes, vous devriez dire, yes, quand même, enfin quelqu'un qui voit. Non, mais restaurateur d'art. Moi, ça me va bien. La femme est le chef-d'œuvre de Dieu. Et la femme est tellement, tellement dans notre monde. Je rentre d'Afrique, mais mon Dieu, c'est encore X fois pire qu'ici. Et tellement, tellement méprisée, tellement écrasée, tellement, tellement réduite à rien. Et d'être restaurateur, amener les gens à la restauration. Alors, la restauration passe par la compréhension de la différence entre l'accusation et la conviction de péché. Très brièvement, l'accusation, c'est un doigt pointé sur toi. Et ce doigt, ben, il reste pointé sur toi. Dès que tu as la conscience, vraie ou fausse, d'avoir fait une faute, le doigt reste pointé sur toi. Cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, victime de son père, violée pendant des années, 40 ans après, elle portait l'accusation et la honte des crimes qu'elle avait subis. 100% des victimes de violences sexuelles portent la honte et l'accusation du crime qu'elles ont subi. Là, on voit l'action du père du mensonge. Vous êtes d'accord? Et cette femme nous disait, quand on a parlé avec elle, elle nous disait, mais j'ai demandé pardon 10 000 fois à Dieu. J'ai dit, comment? C'était quoi ton... T'as demandé pardon, pourquoi? Mais... Je me suis fâché. J'ai dit, pardonne-moi, c'est pas contre toi. Mais je veux mettre en colère là cet esprit de mensonge qui est en toi. Imagine-toi cet enfant de 6 ans qui se sent coupable du crime que son père commet envers elle. Ça, c'est le mensonge. Je dénonce ce mensonge. Je te délie de ce mensonge au nom de Jésus. Ça demande parfois de se mettre en colère, pas dire, tu vois. Et après, l'accusation qui reste. Toute accusation vient de l'accusateur. Souvenons-nous, quand nous parlons aux gens autour de nous, on tue. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as encore pas lavé mes slips. C'est pas vrai. Toutes les fois que je parle en tu à une personne, ben je prends le, je me fais le relais de l'accusateur. Je peux dire la même chose, chérie. Je veux bien me balader sans slip, ça se verra pas, mais ça serait pas mal que j'en aie. Il y a d'autres manières de le dire. L'accusation, c'est ça. La conviction de péché, c'est quoi? L'accusation, elle demeure. Elle demeure, elle demeure. Chez cette femme, elle est demeurée juste 40 ans. La conviction de péché, c'est pas un doigt pointé sur toi, c'est la main de Jésus qui est tendue vers toi et qui se tend, il vient te rechercher là où tu es tombé. Et elle est juste tendue, elle porte la marque du clou qui signifie « ça a été payé ». Si tu as vraiment commis une faute, c'est payé. C'est bon. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Tu dois simplement accrocher cette main. Je ne vais pas te tirer de force. Tu l'accroches. Et quand je sentirai que tu l'as accrochée, je te relève. Et c'est OK. Ça, c'est la conviction de péché. Combien on fait la différence? Combien sont dans la honte par rapport à ce qu'ils ont fait? Combien sont parfois... parfois, la mémoire te rappelle les choses que tu as faites. Et on ne sait pas comment faire. On demande pardon. On demande pardon, on demande pardon, on demande pardon. Ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, c'est peut-être que le problème vient de nous. Et il faut connaître. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et parfois, on manque de connaissance cruellement. J'aimerais juste terminer. Je prends 5 minutes encore. Jésus est venu pour que nous ayons la liberté, la vraie liberté, cette liberté intérieure qui fait qu'importe ce que nous ayons vécu, même si on a vécu des choses difficiles, une Léa qui était au bout de sa vie, on est devenu ami avec ses parents. Son père me disait avec beaucoup d'émotion, vous avez sauvé ma fille. Il y avait aucun espoir pour elle. Aucun espoir. La médecine, la psychiatrie, elle les a tous épuisés pendant. Elle est connue dans les, vous connaissez la clinique de Benley. C'est un des cas, dans les 25 dernières années, un des cas qui était vraiment dans le haut du panier. Elle a marqué cette clinique. C'est irrécupérable. Et voilà où elle est aujourd'hui. Et ce qu'elle a vécu va être une arme puissante pour amener l'espérance autour d'elle. J'aimerais juste terminer avec ce mode d'emploi. Dans le livre des psaumes, les 3 premiers versets du livre des psaumes nous donnent le mode d'emploi du bonheur. Mode d'emploi du bonheur, très simple. Il y a d'abord quelques petites choses qu'il ne faut pas faire, et ensuite ce qu'il faut faire. Le livre des psaumes, chapitre 1, commence par le mot « heureux ». Heureux, et ensuite vous avez le mode d'emploi. Si tu suis ce mode d'emploi, tout simple, tu vas être heureux. Tu vas réussir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Méchants, pécheurs, moqueurs. Très rapidement, ceux qui critiquent, qui jugent, qui accusent, qui ont des paroles mauvaises, qui sont dans le négativisme, qui sont dans la plainte, qui sont dans le mécontentement. Ce que Dieu a reproché au peuple d'Israël, c'était quoi? En patron, on dit que c'était des plaignous. En Égypte, c'était quand même mieux. Leur principal péché, c'était ça. C'était pas sorti d'Égypte. Oh, mais quand même.
ce qu'il faut pas faire. Déjà ça. Et ensuite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il a, il n'est pas dit qu'il la lit une heure par jour, il dit qu'il la médite jour et nuit. Quand tu te relèves la nuit ou quand tu, comme moi, cette nuit entre 4h et 5h30, tu peux pas dormir, qu'est-ce qui turlupine dans tes pensées? Si tu connais pas la Bible par cœur, puis que tu es un peu dans le gaz là, tu dis non, je vais pas allumer pour lire ma Bible, ça va pas le faire. Mais tu as les pensées qui tournent. Qu'est-ce qui tourne? Ça c'est mais aie au moins un ou deux versets de pouvoir proclamer une promesse de Dieu. Merci Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposant. Merci, je demeure sous ton abri. Et tu peux broder, tu peux prier là-dessus. Un simple verset. Un de nos amis était là hier chez nous, il disait, mais j'ai des angoisses. J'ai dit, mais simplement, Ésaïe 41:10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et il me dit, il faut le dire combien de fois? Alors je dis, dans l'Église catholique, c'était plus simple parce qu'on avait des chapelets. Alors tu savais exactement. Un autre père dit, je vous salue Marie. Tu y vas, et puis t'arrives au bout, tu comptes tes machins, tu comptes les fois, puis t'arrives au bout, puis tu dis, j'ai fait mon rosaire. Alors c'est bon, j'ai fait ma part. C'est pas ça. C'est de proclamer la parole de Dieu. J'ai des angoisses. C'est ma réalité. Qu'est-ce que dit la vérité? Dieu te dit, ne crains pas. Et si tu le prends comme un bon conseil, tu peux dire, t'en as bonne, toi. Ou, alors, ça va être compliqué, mais si tu le prends comme un ordre, je reçois ça comme un ordre. Dieu te dit, stop, ne crains pas. Ok, d'accord. Alors j'y vais. Je ne crains pas. Alors Seigneur, merci. Je regarde le verset parce que je suis pas sûr. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours. Tu me soutiens de ta droite triomphante. Ça pas beaucoup changé. Bon, je ne crains. Merci parce que je ne crains rien. Tu es avec moi. Tu rentres là-dedans. Tu proclames. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes amis, des fois c'est tellement simple. Je me dis, mais comment il t'a fallu 35 ans pour comprendre tout ça? T'es teubé ou quoi? C'est tellement simple. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais pas oublier que je suis un ancien bègue. Et le Seigneur m'a guéri. Je raconte ça dans les bouquins. C'est par la foi que j'ai trouvé la guérison du bégaiement après 46 ans quand même. 46 ans. C'est dire que l'ornière creusée était profonde. Et c'est par la foi, c'est en proclamant ce que je ne vivais pas. Je terminerai juste par ce verset-là, Marc 11:24. Vous devriez vous souvenir de ça par cœur, l'imprimer, mettre ça partout chez vous. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que tu demandes en priant, crois d'abord et tu le verras s'accomplir. Et c'est ce verset-là qui m'a permis de sortir du bégaiement, d'être libéré du bégaiement 46 ans plus tard. Parce que, à un moment, j'ai dit, voilà, il y a ma réalité, il y a mes problèmes, et de l'autre côté, il y a les promesses de la parole de Dieu. Je peux pas nier ma réalité. Il s'agit pas de ça. Ma réalité, elle est là. Elle est ce qu'elle est. Mais je peux me focaliser sur les promesses de la parole de Dieu et m'y accrocher comme un pitbull s'accroche à son os. Et proclamer ça. Proclamer ce que je ne vis pas. L'Éternel, la lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, devant qui tremblerais-je? Et le proclamer encore. Et j'ai sorti une vingtaine de promesses comme ça, j'en ai fait une prière, j'ai proclamé par cœur, j'ai proclamé encore. Et peu à peu, la vérité s'est inscrite dans ma réalité. Je termine avec ça. Seigneur, Merci pour mes frères et sœurs. Tu peux nous jouer un petit quelque chose, Reed. Un petit quelque chose. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta parole. ta vérité, la vérité, Seigneur. Tu nous dis, il envoya sa parole et elle est guérie. Seigneur, ta parole est guérissante. Ta parole est une arme. Tu nous parles de l'épée de l'esprit. Tu nous parles de marcher selon l'esprit. Alors, on le sait, en théorie, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. On connaît ces choses, c'est de la théorie. Mais c'est ne marcher selon l'esprit. C'est ne pas marcher selon les circonstances. C'est ne pas marcher selon nos pensées, selon notre réalité. C'est ne pas laisser place à la peur, c'est simplement confesser, proclamer ce que tu es, parce que tu es la vérité. Ta parole est comme une épée, l'épée de l'esprit qui vient séparer jointure et moelle. Seigneur, merci d'apprendre à mes frères et sœurs à marcher selon ta parole, à se focaliser sur la vérité, à se centrer sur la vérité, à la proclamer, même si on ne la vit pas, même si on a l'impression que tout est contraire, comme un Abraham qui avait reçu la promesse d'une descendance à 75 ans et qui arrivait à 100 ans, il n'avait toujours pas vu l'accomplissement de la promesse, mais il est resté fidèle et c'est devenu le père des croyants, le père de la foi. Seigneur, merci de nous motiver chacun à s'accrocher à ta parole, à proclamer la parole et Seigneur, à confondre le père du mensonge avec ta parole qui est la vérité. Que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacune et chacun d'entre nous, Père, au nom de Jésus. Amen.